Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Point radio.
Du Trisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
du Trisac.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
Y'a sa barbe qui pique un peu, y'a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains.
Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains.
Il y a sa barbe qui pique un peu. Il est avec nous, Caroline. C'est Thomas Mulcair qui est avec nous aujourd'hui, en ce vendredi. Bonjour.
Salut Antoine, salut Caroline. Alors, je parie que Caroline ne connaissait pas notre chanson préférée pour l'émission du matin. Alors, bravo hein, Antoine.
C'est ça. Tous les vendredis, on a le dialogue des barbus, Thomas Mulcair et moi, où on discute de finalement de l'actualité politique de la semaine. Et ben, on s'est dit, on va l'inviter hein, ce vendredi avec Caroline. Bonjour Caroline.
Ah, écoute, je me sens coincée entre deux barbus, moi là.
Mais tu sais que juste un peu de duvet, ça c'est correct pour participer à notre discussion.
Tous les goûts sont dans la nature.
Il n'y a aucun problème. Hey, commençons par discuter de la chronique de Thomas de ce matin, si vous permettez, qui nous dit « Heureux sont les discrets ». Et il dit, au Saguenay, on dirait les discrets. Mais donc, tout ça pour dire qu'il parle de Benoît Charrette, qui a été nommé responsable de la lutte au racisme et qui est un discret, selon Thomas Mulcair, dans le Conseil des ministres. Explique-nous, Thomas.
Ben, j'ai donné deux exemples. Hein. J'ai parlé de Sonia Lebel aussi. Ça, c'est pas quelqu'un qui crie sur tous les toits ses réussites ou ce qu'elle est en train de planifier. Elle est besogneuse, elle s'occupe de ses dossiers qu'elle connaît à fond. Et j'ai donné l'exemple du travail qu'elle avait fait, le document qu'elle avait sorti, qui disait objectivement une évidence que le français, c'est la langue officielle du Canada. Mais ça allait contre une orthodoxie bien établie depuis 50 ans à Ottawa, qui avait des minorités linguistiques français en dehors du Québec et anglais ici. Mm-hmm. Donc, c'était intéressant de constater que Mélanie Joly a emprunté cette même thématique. Donc, de toute évidence, il y avait eu un travail correct de collaboration pour travailler vers une vision comme celle-là. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir Benoît Charrette arrivé, tout le monde du côté environnement disait « Ah, oh, c'est épouvantable, il n'aurait pas assez de temps pour l'environnement. » Et j'ai expliqué comment, avec des détails vraiment en dessous du radar, comment, petite victoire en petite victoire, Benoît Charrette est en train de réaliser des choses très importantes en environnement et développement durable. Mais c'est sûr qu'il fait partie d'un gouvernement pour qui l'environnement, c'est pas très haut sur la liste des priorités. On s'entend là-dessus. On ne rencontrerait jamais notre objectif pour réduire les gaz à effet de serre. Et dès qu'il y avait un prétexte comme la pandémie, M. Legault a voulu prendre la tronçonneuse pour couper plein de lois environnementales. Mais Benoît Charrette, c'est ce genre de personne-là qui, patiemment, en background, connaissant le fond de ses dossiers, est capable de faire évoluer. Tout ça en train de fond contre les plaintes de plusieurs, que ça n'avait pas de bon sens de nommer un homme blanc comme responsable de la lutte au racisme.
Et c'est moi, pas un très bon argument. Hein?
Mais donne une chance au coureur. Ce type-là, par sa propre vie, il a donné un discours assez émouvant là-dessus. Les gens ne savaient pas ce côté de lui. Puis j'ai parlé avec des gens qui avaient déjà travaillé avec lui dans des dossiers de droits des minorités, puis il n'avait que des bonnes choses à dire sur lui. Alors je pense qu'il risque de surprendre. Et je salue ce genre de ministre qui peut-être flash pas autant que d'autres, mais qui est capable de réaliser des choses même contre vents et marées.
Caroline, cet éloge des discrets, là, ça va finalement, ça ajoute de l'eau à ton moulin. Parce que toi aussi, tu as accueilli la nomination de Benoît Charrette assez positivement, finalement. Après un premier temps
délai de réflexion. Oui, tout à fait. Ben oui, parce qu'en fait, j'étais sensible. Au départ, bon, premièrement, j'ai su ça, genre, il était 7 heures le matin, là. Et je me posais la question à savoir comment ça allait être reçu. Moi, personnellement, je pouvais penser que c'était une bonne idée, mais je me posais la question à savoir de la perspective de François Legault qui annonce ça. Premièrement, c'est historique. C'est déjà, en soi, je pense que collectivement, on aurait dû tous applaudir que François Legault ose nommer un ministre responsable de la la lutte au racisme, c'est déjà courageux en soi et audacieux, oui, historique. Oui. Mais un coup qu'on, oui, un coup qu'on a dit ça, est-ce que les minorités auraient pu dire, ben voyons donc, c'est un peu une insulte, Benoît Charrette. Or, la raison de la réflexion que j'ai fait durant la journée, c'est que premièrement le discours de Benoît Charrette, moi je le connaissais pas non plus son passé, son expérience professionnelle et personnelle, qui à mon avis, en tout cas moi, m'a convaincu. Puis j'aime assez dire et répéter que les Blancs ont pas le monopole, hein, du racisme. Et je pense que là, on assiste vraiment à un virage au Québec sur comment on va pouvoir faire de l'éducation sur le racisme. Et je suis assez d'accord avec Thomas que Benoît Charrette a de grandes qualités. Il est peut-être pas flamboyant, pardon. Mais il a ses qualités de diplomatie. Il fera pas non plus de gaffe. Il fera pas non plus honte à son premier ministre, parce que c'est un dossier, on va convenir ensemble, là, que ça peut vite déraper. Il y a tellement de susceptibilité, de sensibilité. Mais je pense qu'on a choisi l'homme de la situation. Alors oui, je partage les commentaires de Thomas Mulcair, ce qui est plutôt rare à la télivision.
Par là. Mais on s'entend mieux.
Oui, vous êtes des, vous êtes,
oui,
deux jouteurs.
Quand on se voit pas finalement.
Mais là, je sais pas si vous allez vous entendre sur Denis Coderre. Lui, c'est un flamboyant, mais il s'est planté hier, non?
Il s'est planté. La conclusion d'Antoine Robitaille. Mais en fait, j'ai hâte d'entendre Thomas là-dessus. Parce que oui, effectivement, Denis Coderre, hier, il a fait un petit gazouillis, hein, mon oncle 101.
Oui.
Il a dit, en fait, je pense qu'il était bien intentionné. Il voulait remercier le ministre Dubé. Il voulait aussi dire que ça s'était pas si mal passé et que, dans le fond, le cabinet du ministre était venu à la rescousse des parents de Denis Coderre. Bon. Est-ce que c'était une bonne idée?
Il y avait un
idée?
Problème informatique, as-tu le dit? Hein?
Ah, c'est ça. Un problème informatique.
Ouais, j'ai eu, moi, donc, le cabinet du premier ministre qui m'a dit, ouais, attention, là, on a voulu régler un problème informatique. C'était pas juste pour lui, c'était pour d'autres. Ça paraissait pas dans le tweet, par exemple.
Ben non. Puis en fait, tu sais, est-ce que, bon, le ministre Dubé a bien répondu, puis je pense que durant la journée, ils répondent à tous, là, pas juste à Denis Coderre et ses parents. Je pense qu'ils ils vont pas selon le nom de la personne. Mais en fait, Tout ça pose la question, on peut se poser la question, est-ce que Denis Coderre ne s'est pas tiré dans le pied un peu? Parce
ben
qu'il
oui.
est en train de faire la démonstration depuis trois ans, qu'il a changé, qu'il a entendu, qu'il est moins arrogant, qu'il est plus empathique. Et là, c'est comme s'il voulait dire un peu, j'existe. C'était pas nécessaire. Il aurait pu tout simplement faire un gazouillis en disant, félicitations à l'équipe, ça se passe bien. Il n'y avait pas besoin de se mettre la face dans le carreau, comme on dit par chez nous. Là.
Je me demande comment Thomas a interprété ce tweet un peu étrange.
Je suis vraiment d'accord avec ce que Caroline vient de dire. Je comprenais
pas. Coudonc,
pourquoi il l'avait
fait. La radio vous rapproche.
Mais je ne comprenais pas. Et un peu comme Caroline, je me suis dit, est-ce qu'il voulait parler de lui et qu'on parle de lui ou qu'il se montre bon gars? Mais j'ajouterais un tout petit détail à mon point de vue. Oui, ça fait 4 ans. Il a peut-être envie de revenir. Mais peu importe le métier, si on ne l'a pas exercé depuis 4 ans, on peut être rouillé. Et je crois que le Denis Coderre d'il y a 3 ou 4 ans, ce serait dit, il n'y a pas que du bon dans cette idée de tweeter ça, parce que les gens peuvent percevoir que. Et je pense que le Denis Coderre d'aujourd'hui n'a pas ces réflexes-là. Donc lui, il a juste vu l'opportunité de parler de lui-même. Quoi de mieux? Et de dire que ça, il avait parlé avec Maud et je sais pas qui d'autre, puis ça, ils ont réglé le problème de sa maman. Mais je fais une radio du côté anglophone le matin, puis on m'avait dit que beaucoup de gens avaient téléphoné pour dire qu'ils n'avaient pas eu cette chance-là de parler avec quelqu'un, même s'ils avaient essayé d'appeler toute la journée hier. Donc, sans présumer de ses intentions, l'effet que ça peut avoir, c'est que beaucoup de gens disent « Ben oui, c'est ça ». T'es un peu connu, puis tout d'un coup, tu peux être servi et que j'ai pas eu le droit à ça.
L'effet que ça a eu, en tout cas, chez moi, ça a été de faire un tweet où je disais que, donc, Denis Coderre voulait le prix Claude Dubois. Je sais pas si vous vous souvenez, Claude Dubois en 2000.
Oui, je me souviens très bien.
H1N1, il avait voulu passer avant tout le monde.
À Saint-Sauveur des Monts. Oui,
oui, oui. Oui, non, c'était pas fort.
Mais moi, j'ai pas senti ça. Honnêtement, j'ai pas senti moi que c'était. Puis pour connaître Denis Coderre, là, c'est moi, je pense pas que son intention était de dire j'ai eu une faveur. Je pense qu'elle était sincère de dire parce qu'on voyait plein de tweets de certains journalistes qui disaient que ça va tout croche. Moi, je pense qu'il voulait dire il y a des bonnes affaires qui se passent aussi, mais c'était pas nécessaire de dire que lui-même en était comme bénéficiaire. C'est là où je pense qu'il s'est desservi
le monde. Le monde a les nerfs à fleur de peau avec tout ce qu'il peut sentir privilège ou accès privilégié. Je m'explique. Ben oui. Ce matin, il y a un article dans le Wall Street Journal sur un gars qui s'appelle Mark, son prénom et son nom de famille, c'est Machin. M-A-C-H-I-N. Peut-être Machin, parce qu'il est anglais d'Angleterre, médecin de son plus pur état. Et il est le président du Fonds d'investissement des pensions du Canada. 365 milliards de dollars dans un pot, il est président de ça. Et voilà qu'on a appris dans le Wall Street Journal ce matin qu'il serait allé en Émirats Arabes Unis pour se procurer l'inoculation par Pfizer. Parce que dans les Émirats, on utilise surtout le vaccin chinois, mais ils ont des doses qu'on peut se procurer de Pfizer. Donc, il est allé là-bas avec son partenaire ou sa partenaire. C'est écrit juste « partner » en anglais. Et il a eu accès à ça, puis il attendait pour sa deuxième dose avant de revenir au Canada. Il y a eu un écrit par le ministère des Finances disant on essaie de dire à tout le monde de ne pas voyager sans raison et on n'était absolument pas au courant de ce voyage-là, même si c'est un endroit qui est supposé d'être autonome du gouvernement comme la Caisse de dépôt, c'est eux qui vont quand même avoir des réponses à donner politiquement. Alors, j'ai bien de savoir si Marc Machin a encore sa job qui reviennent au Canada, parce qu'ils ont pris la peine dans le Wall Street Journal. Puis ça, on ne parle pas du blog de quelqu'un dans son sous-sol, là, on parle du Wall Street Journal. Ils ont pris la peine de montrer quelques-uns des investissements de notre pension, votre pension à vous et à moi, aux Émirats Arabes Unis. Et oh boy, on a-tu de l'argent investi là-bas? Alors, ça sent ça. Je vais à l'autre bout du monde. Le gars a 56 ans, donc il est assez loin sur la liste des gens qui vont recevoir leur vaccin. Et il s'est organisé pour aller jusqu'à l'autre bout du monde. J'ai bien hâte de savoir les détails.
Ça a peut-être donné des idées à Ted Cruz au Texas, tout ça, de voyager.
Pauvre Ted Cruz. C'est M. Alena. Il va être responsable de l'Alena dorénavant parce qu'il voyage au Mexique quand il ne faut pas. Il est sénateur au Texas et comme tu sais, il est né à Calgary en Alberta.
Parlons Alena. De Dominique Anglade qui veut publier un livre.
Ben oui, on apprend ça, effectivement. Il sera publié le 31 mars prochain. Elle a diffusé la pochette de son livre qui sera publié chez Libre Expression. Donc, une préface de Régine Chassagne, d'Arcade Fire. Donc, c'est pas une biographie, c'est pas nécessairement, et elle précise, une plateforme électorale. C'est ce Québec qui m'habite. Donc, c'est un peu les anecdotes, bien sûr, de sa vie, de son parcours. Elle dit les moments qu'elle a ri, qu'elle a pleuré, le parcours de ses enfants, son parcours politique, tout ça avec des anecdotes et comment elle voit le Québec. Alors, on lance parfois, Thomas, des livres comme ça avant de se lancer en campagne électorale pour se faire connaître. On veut pas se faire définir par l'adversaire. Alors, on se définit, on veut se rendre attachant, désirable et intéressante. Alors, je pense que c'est... En tout cas, moi, je vais le lire parce que je suis curieuse de connaître davantage Dominique Anglade. Et donc, ce sera lancé le 31 mars prochain.
En plus, c'est pas quelqu'un qui a une si longue feuille de route en politique et que, justement, que Justine Chassagne, qui est une amie à elle, moi, j'ai eu à écrire sur Dominique Anglade à quelques reprises et j'ai même pris contact, par pur hasard, je les connaissais, avec sa famille d'Anglade en France parce qu'il y a toute une historique d'avant la Révolution parce que, rappelons que la Haïti est le seul pays où les esclaves ont fait une révolte qui a réussi contre leur maître colonialiste. Donc, elle a de la famille encore en France, qui est une assez grande famille, mais qui est revenue ici et se sont reconnectés deux siècles plus tard. Ils se sont connus. C'est passionnant, cette histoire. Et oui, vraiment intéressant. Et donc, c'est quelqu'un qui a un background extraordinaire. C'est la première femme issue des minorités visibles à présider un parti politique au Canada. Il y a maintenant aussi Annamie Paul du Parti vert au fédéral, mais c'est quand même quelqu'un avec un riche bagage intellectuel, culturel. Elle a voyagé avec ses parents qui, rappelons-le, sont morts tous les deux dans le terrible tremblement de terre il y a une dizaine d'années en Haïti, excusez-moi. Mais en plus, elle a vécu là-bas pendant plusieurs années, mais elle est revenue pour faire ses études ici. Mm-hmm. Elle est ingénieure, elle est MBA, elle a fait du consulting avec les plus grandes entreprises. C'est quelqu'un d'archi respecté dans le milieu des affaires. Donc, il y a quelque chose d'incroyablement injuste vis-à-vis les Erin O'Toole et Dominique Anglade de ce monde avec la pandémie. C'est-à-dire que Justin Trudeau a juste à claquer les doigts et se met devant son rideau cottage, puis chaque caméra d'un océan à l'autre est là devant lui, puis personne lui cause vraiment des torts avec des questions vraiment cinglantes, on va se le dire.
À l'inverse, t'as raison, là, il y a une visibilité extraordinaire, les chefs de parti, les premiers ministres, contrairement aux chefs de parti, mais en même temps, la responsabilité, le poids, je veux dire, ça peut vite déraper, on l'a vu, là, Justin Trudeau qui est pas capable de livrer des vaccins dans les dernières semaines, ça peut vite chuter, là, la popularité, donc il y a aussi l'effet contraire que comme chef d'opposition, tu peux en profiter dès que ça va mal. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est ils l'ont difficile.
Mais il y a quand même une chose que je remarque depuis 2-3 semaines, et avec M. Legault et avec M. Trudeau. M. Legault, il va avoir il a tout le monde devant lui, une tribune extraordinaire. Puis là, il se lance. Il se lance dans une révision de ses réussites depuis qu'il est premier ministre. Il commence à faire de la politique purement partisane et personne n'est là pour l'arrêter ou dire, on va donner du temps égal aux autres. Et j'ai vu la même chose cette semaine avec M. Trudeau. Il a fait une tellement longue conférence de presse en début de semaine. Il dit, ah oui, puis une telle du Rouge et Or, elle joue à l'Université Laval, elle m'a écrit pour me dire telle affaire. Donc, ce genre d'anecdote pour essayer de l'humaniser, montrer son intérêt et connecter avec les électeurs à Québec. C'est malaisant qu'il n'y a pas plus d'égalité pour les autres chefs de parti. Moi, je pense que c'est notre devoir à tous de commencer à justement donner la possibilité d'être entendu. Pas besoin d'être d'accord avec la politique ni de Dominique Anglade, ni d'Erin O'Toole, mais on est obligé, je crois, d'essayer de niveler cette approche pour que tout le monde ait droit de citer dans ces débats politiques, finalement.
Tous les chefs d'opposition devraient publier des livres. Ça pourrait s'appeler Le courage de ses convictions.
Ben oui.
Se faire entendre.
Moi, j'étais
c'est le titre de vos livres.
Mais j'étais connu ici, un peu ici au Québec.
Très habile, Antoine.
J'avais été président de l'Office et j'avais été en politique québécoise. Mais à travers le Canada, il faut se faire connaître. Trudeau avait la chance de porter le nom de son père. Et en
ben oui.
D'être connu des caméras et des Canadiens depuis qu'il était tout petit. Donc, ça fait partie de la bataille. Mais on est là pour nous essayer de faire les bons coups. Puis je peux dire que pour l'avoir parlé à plusieurs reprises, Dominique Anglade, c'est quelqu'un qui ça vaut vraiment la peine de connaître.
Ben, bonne fin de semaine à vous deux.
Hey, merci. Mais,
oui, bye Caroline, bye Antoine.
Bye Thomas.
On se reparle la semaine prochaine à d'autres micros. Salut.
Yes, bye bye.